l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition de l'Halloween, édition du 31 octobre 2020.
Félicitations pour ton costume de citrouille, Antoine, même si les gens à la maison ne nous voient pas parce qu'on est à la radio. Merci d'avoir fait cet effort pour moi.
Ça fait grand plaisir et je te renvoie à l'ascenseur parce que tu es déguisé en personne qui ne se déguise pas aujourd'hui. Donc, voilà. Tu es distinct de tous ceux qui circulent actuellement dans les studios de Cube Radio qui... Disons-le, fêtait ses 2 ans tout récemment.
Oui, hein? Voilà.
Bon, on commence par une série d'actualités. On va parler après ça des véhicules de la semaine. T'en as conduit un qui est assez particulier, le Ram TRX. On y reviendra un peu plus tard.
Mais pour moi, l'actualité qui a retenu notre attention cette semaine, Antoine, c'est le prix qui t'a été décerné par l'Association des journalistes automobiles du Canada, l'AJAC. Donc, c'est un prix en vidéojournalisme pour la capsule Rouler au suivant, avec laquelle t'as fait renaître un véhicule. Finalement, un véhicule qui était sur le bord d'être envoyé à la casse. Là.
Oui.
Et il a été remis en état par une équipe d'experts. Et toi, t'as documenté le tout. Et ça fait une pas pire capsule, franchement.
Ben voilà, en fait, merci de m'envoyer de me lancer des fleurs, Germain. Ça arrive pas souvent.
Fais-toi pas, le pot s'en vient.
Oui, c'est ça. Mais on a eu... ça a été quand même un travail assez ardu de coordonner tout ça et d'en arriver au résultat que vous avez vu. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir ça sur le site du Guide de l'auto sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la vidéo ou le googler tout simplement, rouler au suivant. Alors, on a restauré en fait un Hyundai Tucson qui était pratiquement bon pour la casse et on l'a ensuite...
J'enlèverais le pratiquement, là.
Oui, c'est ça. Puis on l'a donné ensuite à une famille qui en avait besoin.
Oui, voilà.
C'est un peu l'objectif de l'émission, mais aussi l'objectif, c'est de mettre en lumière tous les métiers de l'automobile qui sont méconnus ou sous-estimés. Parce qu'on connaît c'est quoi le domaine de la vente automobile, des voitures neuves.
Parce que c'est le contact direct que le consommateur a souvent avec l'automobile. C'est le vendeur qui est dans le bureau. Mais le monsieur qui répare des morceaux de plastique ou qui va restaurer des phares ou qui vend des pièces de voiture, souvent, on ne voit pas ces facettes-là de l'automobile.
Non.
Et là, on le voit dans ce reportage-là.
Donc, mécanique, carrosserie, esthétique, débosselage sans peinture, tout ça, on met ça en lumière. Évidemment, on veut aussi... L'objectif pour moi avec une émission comme celle-là, c'est de prouver aux gens qu'au Québec et au Canada, on jette nos choux gras. On prend des véhicules qui, honnêtement, sont encore bons pour rouler. C'est des véhicules qui ont été négligés, donc qui n'ont pas été entretenus de façon adéquate et ça donne des véhicules qui, prématurément, pourraient se retrouver à la casse.
Si on fait simplement investir le montant des frais de transport et préparation que nous coûterait un véhicule neuf, mais qu'on dépenserait ça dans le véhicule qu'on possède déjà, il y aurait moyen de le remettre en pas pire shape.
C'est-à-dire qu'en restaurant un véhicule comme on l'a fait là, les gens m'ont posé la question, combien ça a coûté, Antoine? Bon, il faut figurer autour de 10 000 $ ce qu'on a fait sur le Hyundai Tucson. Ce qui est beaucoup de sous pour un véhicule de 15 ans.
Mais ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas dépensé un seul sou dans ce Tucson-là?
Premièrement, puis deuxièmement, évidemment, pour les besoins du show, on a voulu démontrer quelques trucs supplémentaires. Donc, est-ce que le wrap de peinture était nécessaire? Peut-être pas. Évidemment, juste ça, c'est un travail d'à peu près 3 000 $
Est-ce que d'avoir des nouvelles jantes, par exemple, c'était... Tu sais, des pneus, c'est nécessaire. Les freins, c'est nécessaire. Je pense que tout ce qui a été apporté comme traitement à l'intérieur, ça aussi, c'était nécessaire.
C'était plus que nécessaire.
Mais on est allé dans le cosmétique aussi, pas dans le tape à l'œil, mais dans l'idée de le rendre
un
beau.
Un peu dans le tape à l'œil.
Dans l'idée de le rendre beau à nouveau.
C'est ça. Fait que tout ça, ça fait en sorte qu'on a mis plus de sous que quelqu'un n'aurait mis normalement, mais en même temps, on démontre que s'il y avait eu un entretien régulier de fait sur ce véhicule-là, il n'y aurait pratiquement rien eu à faire.
Ouais.
Et le véhicule pourrait encore rouler. Donc, l'idée, c'est d'illustrer qu'un entretien minimum, ça peut être payant et c'est écologiquement intéressant de le faire aussi versus envoyer un véhicule à la casse et en fabriquer un nouveau qu'on va acheter sur un concessionnaire. Parce que l'impact de fabriquer un véhicule neuf est toujours plus grand que de continuer à faire rouler un véhicule pour lequel l'impact environnemental a déjà eu lieu.
On est d'accord.
Ça, c'est évident. Fait que c'est un peu l'objectif de cette émission-là. Et puis, l'AJAC m'a décerné le prix du meilleur vidéo journalistique automobile cette année. J'en étais bien, bien heureux.
Alors, bravo encore.
Merci bien.
Autre actualité, hein, parce que, bon, les spotlights n'étaient pas que réservés pour toi. Il y a Mercedes et Aston Martin qui, dans une autre mesure, ont fait parler d'elles. En fait, on le sait très bien, là, les moteurs d'Aston Martin proviennent de chez Mercedes. Donc, il y a déjà un lien qui est fort entre ces deux marques-là.
En fait, il y a une technologie de plus en plus évidente provenant de chez Mercedes qu'on retrouve dans les Aston Martin de dernière génération.
Et toi qui en as conduit deux récemment, ben, tu as pu être à même de le constater. Mais là, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que un petit constructeur comme Aston Martin, faire le saut vers l'électrique, ben, c'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement évident,
non.
Ni même rentable sur le plan financier. Alors, c'est Mercedes qui va s'en charger en échange.
S'en charger?
S'en charger. Oui. Ah, voilà. Oui. C'était même pas fait exprès. On va faire ça en échange, là, évidemment, de part de l'entreprise.
Oui.
Donc, à terme de ce projet-là, Mercedes va posséder 20% des parts de d'Aston Martin, ce qui est considérable.
Quand même pas, ouais.
Oui, voilà.
Et ça, c'est évidemment, c'est une part que ne possédera pas Lawrence Stroll.
Oh, le roi de la transition.
Le roi de la transition. Bon, parce qu'on sait que Aston Martin est en partie détenu par Lawrence Stroll. Et là, ben, Lawrence Stroll est aussi sur les nouvelles cette semaine parce que t'as eu vent d'une rumeur.
Oui, une rumeur hein, qui est sur le point de se concrétiser là. Donc Lawrence Stroll, qui est propriétaire de la concession Ferrari à Montréal sur rue Jean Talon, serait sur le point de rendre les clés de l'endroit à un autre homme d'affaires de Montréal, Gad Bitton. Lui, on le connaît entre autres parce que il possède Holland Leasing, hein, donc l'entreprise qui permet la location de véhicules de luxe, mais aussi qui
possède Rolls-Royce Montréal.
Exactement, qui possède la bannière Rolls-Royce à Montréal et Lamborghini à Palm Beach et
deux concessionnaires BMW de la région de Québec aussi.
Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est lui qui se serait porté acquéreur de l'endroit. Il y a une offre qui a été déposée, il y a une offre qui a été acceptée et il reste juste à finaliser l'entente. Il resterait juste à finaliser l'entente. Parlons au conditionnel parce que c'est pas encore complété. Et
moi, je me souviens d'il y a quelques semaines, au moment où on était allé essayer ensemble, toi et moi, la Ferrari Roma, ben là, je me disais, tiens, Ferrari qui lance une voiture pour rivaliser avec Aston Martin et Lawrence Stroll qui joue sur les deux terrains en vendant des Ferrari et en s'impliquant chez Aston Martin, ben là, il a choisi son camp, clairement.
Oui, parce que c'est une chose de posséder plusieurs concessionnaires, hein, parce que, on voyait les réactions sur les réseaux sociaux, oui, on peut posséder plusieurs concessionnaires de plusieurs bannières, mais d'être un membre actif d'un constructeur et d'avoir un concessionnaire d'une autre marque, c'est un peu plus glissant. Et on se rappelle aussi que M. Stroll a vendu la concession Maserati de Laval et de Montréal également à M. Bitton. Donc, voilà, ça s'est fait ça dans la dernière année.
Cinquième véhicule maintenant pour Genesis qui multiplie ses arrivées cette année parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et j'irai d'ailleurs, dès la semaine prochaine, conduire le nouveau GV80 et la berline G80 du côté de l'Ontario. Mais ce qu'on a dévoilé cette semaine, c'est un VUS un peu plus petit que le GV80 qui vient rivaliser avec des Acura RDX, BMW X3, etc. Là, c'est le GV70.
Oui, exactement. Donc, un VUS un petit peu plus petit qui débarque chez Genesis. Et on a la mauvaise habitude hein, chez Genesis de dévoiler vraiment là, au compte-gouttes chaque information. Donc, pour le moment, ben on le voit en image. Donc, fini le camouflage. Déjà une étape de plus.
Il y a une belle gueule.
Mais sur le plan technique, on sait pas grand-chose. Bon, on a vu des photos de l'intérieur. Ça donne quand même une bonne idée. Mais
sur le plan technique, il faut s'attendre.
Au 2.5 turbo, oui, mais
Et au châssis
mais
de la G70.
Mais il n'y a rien qui a été annoncé non plus. T'sais. Tout se fait très, très, très graduellement. Au moins, on peut le voir. Je trouve que la troisième vitre, là, donc entre le pilier B et le pilier C, c'est pas gros, hein, franchement.
Non, mais je trouve que ça donne un look assez intéressant.
C'est différent. C'est différent.
Moi, j'aime bien. C'est différent. Puis je trouve que les VUS qui se ressemblent tous avec cette espèce de crochet dans dans la lunette de custode sur le côté, on voit ça sur tous les véhicules. Là, c'est pas compliqué. Ben là, on est carrément à aller ailleurs à ce niveau-là. Fait qu'on a un design qui est original, qui me plaît énormément.
Puis sinon, pour le reste, ben, c'est très Genesis, là. Donc, ouais, un espèce de gros bouclier à l'avant. Les phares qui sont séparés à l'horizontale. Donc, on n'est pas... Il n'y a rien de surprenant à cet effet-là. Là.
J'aime ça parce que tu parles comme si tu étais déjà habitué, sauf qu'on n'en a pas encore vu sur la route vraiment.
Non! Hein? ça, c'est un fait.
Mais on a lancé tellement de nouveaux modèles récemment.
Et qui reprennent tous le même thème. Donc, voilà.
Bon, Germain, t'es allé conduire, on va en parler, là. T'es allé conduire tout un camion cette semaine. Le Ram, mais dans sa version TRX à moteur de 702 chevaux. Ouais. Tu sais, quand t'as besoin de puissance, là.
Ben, écoute, franchement, Antoine, je trouve ça rafraîchissant que FCA ose de cette manière-là. Certaines langues vont dire que FCA fonce tout droit dans le mur. Pourtant, on sait très bien...
Ben
que...
là, on saute par-dessus,
là,
en fait.
Là, on saute par-dessus parce que... Bon, parlons-en tout de suite, si tu veux. Dans ces lancements-là, hein, peut-être pour informer les gens à la maison, on nous présente toujours le véhicule dans le contexte le plus favorable. Donc, et quand on conduit un véhicule 4x4, ben, on le conduit souvent sur un chemin de roche. Là, c'est jamais très, très intense. C'est jamais très, très demandant pour le véhicule.
Sauf dans le cas de Jeep. Je dois admettre que dans le cas du Jeep Wrangler, on nous en a mis plein la vue. C'était hallucinant ce qu'on a fait avec ça.
Oui, mais mettons le Crosstrek, là, qui est un véhicule très, très, très capable que j'ai conduit il y a quelques semaines. Franchement...
Allé rouler sur des routes non pavées, puis c'était pas mal ça. Là.
Oui, voilà. Bon. C'est du gazon humide, là. ça aurait été gênant de rester coincé. Et là, avec le Ram TRX, on n'a pas pris de chance. On est allé sur une piste de motocross et on a, en bon français, jumpé le Ram TRX. Donc, c'est assez impressionnant. On nous avait mis le casque, le harnais, vraiment, beaucoup de précautions.
Dans une autre vie, dans un autre média, ça m'est déjà arrivé, ça, de sauter des obstacles avec des pick-up. Mais c'est un hobby que j'aime bien.
Mais moi, j'ai pas kinké la cabine de... OK. Donc, poursuivons. Où je m'en allais avec... sur une piste de motocross, bon, blablabla. Et évidemment, recouverte de boue. Je m'attendais à ce que ça donne un coup, là, d'une très grande force à l'atterrissage. Et franchement... Le véhicule est capable. Le véhicule donne l'impression qu'il pourrait faire ça à la journée longue. Le travail qui a été fait dans les suspensions, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
Ben, faut
cela
expliquer.
Dit, quand on réalise l'exercice 5 km/h plus vite que ce qui nous est permis, là, on réalise que ben, ça lui en demande un peu plus. Mais on réussit à lever le véhicule de terre, là, des quatre roues. Il atterrit, c'est facile. Et sinon, pour le reste, sur la route, ben, effectivement, c'est difficile de respecter les limites de vitesse, je te le confirme.
Mais est-ce que ça se conduit décemment, de façon normale, sans qu'on ait tout le temps envie de pousser ça à sa limite? Parce que, peut-être l'avantage d'une Challenger, j'oserais dire. Tu peux acheter une Challenger SRT, puis pas tout le temps avoir envie de mettre le pied au fond, de la conduire de façon normale. Puis un Ram, ben, on connaît la technologie qu'on a là-dedans. Puis je pense qu'on a peut-être un peu oublié d'expliquer c'était quoi le TRX. Alors, imaginez-le comme le rival direct du Raptor.
Mais
puissant.
Une version qui a de l'allure, finalement. Là, on a quoi, 200 quelques chevaux de plus que le Raptor. Si j'ai pas les chiffres
devant
moi.
C'est 227 chevaux. Hein,
différence. Parce qu'on est à 702 avec le TRX. On a mis le V8 EMI suralimenté sous le capot. D'ailleurs, on entend le compresseur
volumétrique, ça doit sciller. Là.
Oui, je te le confirme. Puis bon, c'est vraiment pas désagréable. Mais non, ça se conduit... ça se conduit comme un Ram 1500 conventionnel, je te dirais.
Et ça sera uniquement disponible en cabine double ou cabine allongée aussi, quad cab?
Non, c'est les quatre portes, portes régulières avec la petite boîte. Là, il n'y a pas moyen de... Pour le moment...
Tu
ne
peux pas avoir une cabine allongée, qu'on appelle quad cab, au lieu de...
Non, c'est la grosse cabine. Là.
OK, bon, parfait.
Et la petite boîte, ce qui est assez plate. Et ça
ne consomme pas, ça.
24,7 litres au 100, la cote enregistrée pendant que je l'ai conduit. Évidemment, je l'avais entre les mains seulement quelques heures. Donc, oui, je l'ai écrasé.
24,7 quand même. Hein?
Et donc, oui, je l'ai écrasé. À plusieurs reprises, oui. Je voulais
là, on
voir
peut s'imaginer que ça va osciller autour de 20 litres au 100.
Oui, ça descendra pas bien ben en bas de ça, j'ai bien l'impression. Tu as mentionné le Challenger et le Charger L4,
ouais.
Qui finalement ont la même mécanique, mais là, de l'avoir dans un véhicule qui est 4x4, on n'a jamais, jamais, jamais le derrière qui se dandine, ce qui est le cas de la Charger et de la Challenger, puisque ce sont des véhicules propulsion.
Ben, en là, même temps, on l'a pas plus dans le Grand Cherokee puis dans le nouveau Durango. Là,
non, t'sais? Non, mais c'est une bonne chose.
Peux-tu croire qu'on met cette mécanique-là dans quoi? 5 véhicules disponibles chez FCA maintenant?
Oui, Charger, Challenger, Durango qui va arriver.
Grand Cherokee
Trackhawk, puis Ram TRX.
Encore heureux qu'il ait arrêté la production du Journey. Parce que
et de la Grand Caravane! Donc, un véhicule...
Une Pacifica L4, ça serait pas pire.
Donc, un jouet franchement exceptionnel qui va se vendre comme des petits pains chauds, c'est sûr.
Combien?
C'est 100 000, là, grosso modo, là, parce que c'est 93 000 et personne ne prend ça sans 2-3 options.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est 100 000 $. Oui, c'est beaucoup de sous, mais en même temps, une camionnette pleine grandeur à 100 000, c'est rendu monnaie courante. Donc, voilà.
Incroyable.
Oui,
incroyable. Ah ouais, où s'en va? On peut quand même se demander où s'en va FCA à sortir des trucs de même pendant que.
On le sait que ça va se vendre, on le sait que c'est payant de rendre.
Oui, mais à un moment donné, il y a une taxe carbone à payer, là.
Il y a une... Oui.
Écoute, ça me fait capoter de voir à quel point tu as l'impression qu'on vit dans un monde parallèle chez Chrysler.
Ah, on est à
oui,
contre-courant, c'est rafraîchissant, mais voilà.
Tu sais, oui, on aime ça, on trouve ça le fun, on est des amateurs de mécanique, de puissance, ce que tu voudras, mais à un moment donné, là, ça n'a pas d'autre choix que de les rattraper. Là.
Éventuellement.
On doit savoir quelque chose. Mais là, on avait annoncé justement cette semaine qu'on s'en venait avec de l'électrification. On l'a dit du côté de chez Jeep.
On nous annonce ça aux 3 mois.
On l'a dit du côté de chez Jeep.
Arrêtez de nous dire que ça s'en vient, puis amenez-les. Là.
Bon,
de ton côté, tu as conduit un véhicule un petit peu plus terre-à-terre.
Oui,
mais,
4 fois moins.
Mais qui consomme
4 fois moins. Hein, parce que tu me parlais de 24 litres au 100. Moi, j'ai fait 6 litres au 100. Alors, c'est la Toyota Venza que j'ai présentée à Salut Bonjour mardi dernier. Vous pouvez revoir le clip sur mes réseaux sociaux, sur le site du Guide de l'auto aussi. Écoute, c'est vraiment un produit qui m'a impressionné parce que la Venza, bon, on savait quelle était sa vocation lorsqu'elle y est arrivée en 2009.
Oui, on a encore la vieille image en tête, là.
Et le Venza aux États-Unis, ça s'est pas super bien vendu, mais chez nous, ça a connu beaucoup de succès. D'ailleurs, ça s'est énormément volé. C'était des véhicules qui étaient très volés.
Pour l'exportation, je présume?
En grande partie. Mais on comparait ça un peu avec la Subaru Outback, avec un Nissan Murano, Ford Edge, dans ce genre-là. Mais les Américains n'aimaient pas son côté un peu trop voiture, pas assez camion. Faut se souvenir qu'à cette époque-là,
C'était une Camry familiale.
Oui, c'était une Camry familiale haute sur pattes avec un look assez contemporain, mais on était encore à la croisée des chemins de ce qu'était un vrai multisegment à cette époque-là. Faut se souvenir que Ford avait débarqué quelques années avant avec le Freestyle.
Qui
est devenu la Taurus X. Chrysler avait lancé
la
première Pacifica.
Mais on avait des véhicules qui n'étaient pas des voitures non plus, qui n'étaient pas des camions.
C'était pas. On était dans un entre-deux, puis ça a fonctionné plus ou moins. Mais la Venza n'a pas connu le succès escompté aux États-Unis, mais c'est bien vendu chez nous. Et on a tiré la plug en 2015 aux États-Unis. On en vendait à peine 20 000 dans tous les États-Unis en 2015, pas des farces. Et à la fin de l'année 2016, on a abandonné au Canada. 5 ans plus tard, on revient avec une deuxième génération parce que là...
Mais une formule totalement différente.
Ben, je dirais pas totalement.
Ben...
Parce que oui, le véhicule est un peu plus haut sur pattes. C'est un peu plus...
Mais il s'assume pleinement comme un VUS. Là.
Oui, sauf que c'est la même formule qu'avant. Plateforme de Camry, technologie, c'est la plateforme TNGA, là, technologie empruntée à plusieurs produits Toyota, donc la mécanique du RAV4, hybride seulement.
Oui.
Un véhicule qui n'a pas une allure de camion carré VUS, tu sais, on se la joue.
Ça déborde pas de testostérone, là.
Non, mais ce que j'aime, c'est qu'on se la joue Lexus, mais sans toutes les fioritures puis les coups d'épée qu'on a dans le design de Lexus. Donc, ça donne un véhicule qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus homogène, qui risque de vieillir beaucoup plus facilement aussi. Et à bord, je dirais, c'est la même chose. Un niveau de finition carrément comparable avec ce qu'on a chez Lexus, mais sans ce damné pavé tactile avec un système informatique incompréhensible. tout est fluide, tout est ergonomique, c'est parfait. Un véhicule très silencieux, je vous l'ai dit, ça roule à 6 litres au 100.
Ça, c'est exceptionnel, ça... là, parce qu'on a un VUS intermédiaire, finalement, entre les mains.
Ben oui, et 220 chevaux, ce qui est très honnête. Moi, honnêtement, là...
C'est quand même moins puissant que les concurrents, là.
Oui, si tu compares avec un Ford Edge 4 cylindres, 2 litres turbo, qui fait 250 chevaux, tu as un peu moins de puissance, c'est vrai. Mais tu consommes 40 % moins d'essence.
Oh, c'est, on s'entend, c'est exceptionnel.
Là, c'est 45 % moins d'essence qu'un Blazer ou un Murano à moteur V6. Donc, tu sais, on est complètement ailleurs avec un véhicule qui est confortable, qui est polyvalent. Moi, j'ai vraiment apprécié, puis je suis persuadé que ça va se vendre. C'est pas donné, là. On parle de 36-37 000 à 48 000 avant les taxes, bien sûr. Donc, c'est un prix moyen dans ce segment-là. Mais contrairement à un Chevrolet Blazer, ça va garder sa valeur. Ça va.
Contrairement au Chevrolet Blazer, ça va se vendre.
Oui, il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, puis il y a déjà une pénurie de ce modèle-là, parce que les gens veulent avoir des hybrides efficaces. Puis on se rend compte que c'est le meilleur des mondes pour la moyenne des automobilistes que d'avoir un véhicule qui va rouler à 6, 7, 7,5 l'hiver, 8 peut-être, là, mais dans un gros maximum. Moi, j'ai fait 6 litres au 100 sans forcer. Fait que c'est carrément impressionnant. Ça consomme un peu plus sur l'autoroute qu'en ville, évidemment, parce que c'est une hybride.
Ouais.
Mais c'est quand même une machine bien, bien, bien impressionnante.
Merci, Antoine.